maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.
Bonjour. Pour ce nouveau numéro, nous sortons des frontières terrestres françaises pour aller plus haut, bien plus haut, l'espace. L'espace est un territoire qui nous renseigne sur l'évolution de nos sociétés, sur les relations géopolitiques entre les États. La course à l'espace s'est assumée sur la scène internationale son rang de puissance. C'est explorer des nouvelles frontières spatiales, mais aussi scientifiques. La course à l'espace, c'est mieux comprendre notre société actuelle. Pas plus tard que le 8 janvier 2016, le site American Ars Technica déclarait que l'Europe souhaitait aller sur la Lune au lieu de Mars, d'ici 2020. L'Europe souhaite donc envoyer des hommes sur notre satellite. Cette nouvelle exploration sera accomplie, non pas comme en 69, mais avec une certaine coopération internationale, avec l'aide de la Chine et de la Russie, qui sont les deux nations capables d'aider aujourd'hui les Européens à explorer de nouveau la Lune. La NASA a déclaré qu'elle aiderait bien les Européens, mais Barack Obama le rappelait en 2010, nous y sommes déjà allés.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
c'est avec Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, que nous commençons ce nouveau numéro des routes musicales consacrées à l'espace. C'est encore l'amour qui transporte Frank Sinatra sur la Lune dans cette reprise de 1964, 5 ans avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'y posent vraiment les pieds. L'espace, aujourd'hui, n'a jamais été autant au cœur de l'actualité moderne. En effet, la conquête de l'espace illustre de grands changements de notre société depuis la fin de la guerre froide. La conquête spatiale est primordiale pour nos sociétés contemporaines. En effet, les progrès scientifiques liés à l'espace ont profondément modifié les connaissances et les activités de nos sociétés. Aujourd'hui, nos sociétés sont totalement dépendantes des satellites qui servent aux réseaux de télécommunications, à la prévision météorologique, à la gestion des ressources naturelles, à la prévention des risques. N'oublions pas le militaire. Un seul objectif militaire ne peut se passer des images satellites. Les opérations sont suivies en temps réel. Rien que pour le militaire, il faut compter 750 satellites. Le GPS est issu de la technologie de la défense, GPS américain. En tout, dans l'espace, actuellement, c'est 2500 satellites qui tournent autour de la Terre. Les recherches dans l'espace ont permis aussi des progrès technologiques, notamment dans les matériaux composites. Les couches des bébés sont dues à des progrès scientifiques dus aux scaphandres des spationautes. Mais aussi la médecine avec les machines de dialyse, les pompes d'assistance, les robotiques. C'est Florent Marché, dans son dernier album sorti en 2014, Bambi Galaxy, une chanson que vous allez voir entendre cosmique, qui a envie de sortir de ce monde terrestre, très inquiet et déraciné par ce monde de technologie dû à cette course à l'espace. On écoute.
Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy, bonne nuit les petits. Shanghai, scintille, iPad et fossiles, un rien nous habille. Je n'ai plus de famille. Shanghai, Daiquiri, Bambi, Galaxy. Quel est mon pays? Capsule, mon cap canavéral, tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Shanghai dans Lorraine, en Porsche Cayenne. Les autres en quarantaine. King size à la yacht. Pétrole et nitrate. La nuit qui nous gâte. Où est ma capsule? Mon cap canavéral.
l'espace fascine, les entreprises, les États et n'importe quel homme sur notre planète. Pour preuve, le tourisme de l'espace cherche à se développer. On a l'agence spatiale russe SpaceX qui a un vol de personnes pour la planète, pour la navette Soyouz. C'est 20 millions de dollars le vol. On a aussi un acteur complètement privé qui est Virgin Galactic, après un premier échec, retente l'aventure pour le tourisme spatial. Bien, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les États ne sont plus les seuls acteurs de la découverte et des voyages dans l'espace. Même si, par exemple, aux États-Unis, c'est 350 000 personnes qui travaillent sur le programme spatial américain. En France, c'est le Centre national d'études spatiales. Et puis Arianespace, qui représente 60% du marché de lancement de satellites. Pourtant, la géopolitique des États et acteurs de la conquête de cette course à l'espace se modifie légèrement en 2015-2016. Alors, premier acteur, c'est toujours les États-Unis qui ont des projets toujours ambitieux, moins que dans les années 60-70, et surtout après quelques échecs, par exemple le projet Constellation 2010, qui a été un échec pour explorer Saturne et ses satellites. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le succès avec en 2015-2016 avec la sonde qui a envoyé des images de Pluton, qui a relayé vers la Terre les premières images de cet astre le plus éloigné. Et puis on a le 4 juillet 2011, il y a la sonde Juno qui a été lancée par la NASA qui entre en orbite autour de Jupiter. Alors, l'Union européenne n'est pas en reste, puisqu'en 2014, c'est Philae, c'est le petit robot de l'Agence spatiale européenne qui a été largué sur la comète, dont on a vu les images sur tout l'été 2015. Et puis, bientôt, ça sera Jupiter qui sera la prochaine planète à accueillir un explorateur robotisé de l'Union européenne. La Chine, elle aussi, elle appartient désormais au cercle des puissances spatiales avec la China National Space Administration. Elle a envoyé en 2003 un taïkonaute dans l'espace, Yang Laiwei. Elle a lancé une sonde d'exploration lunaire en 2007. Elle a réussi à détruire un de ses anciens satellites avec un tir de missile. Donc aujourd'hui, la Chine, elle est la cinquième place des puissances spatiales. L'Inde en est la sixième. Alors l'Inde, elle s'est plutôt spécialisée dans le lancement de satellites, nécessaire à son indépendance par rapport aux autres grandes puissances spatiales, importantes pour les télécommunications. Et puis, petit à petit, on a le désir de relancer des petits satellites avec des espèces d'engins tout-terrain pour aller explorer soit la Lune pour la Chine ou soit l'Inde pour les comètes. Et puis, n'oublions pas notre dernier petit acteur qui, lui, fait froid dans le dos, c'est la Corée du Nord, puisque le 7 février 2016, elle aurait réussi, alors on utilise le conditionnel, à placer en orbite un satellite grâce à un tir de fusée qui servirait à la mise au point d'un armement capable de frapper le territoire américain. Alors n'oublions pas le continent africain. Eh bien oui, les Africains rêvent aussi d'aller sur la Lune. La dernière preuve en date, c'est ce qu'on appelle le projet Africa to Moon, qui est donc initié par la Fondation pour le développement de l'espace, Foundation for Space Development. Alors c'est une organisation des États du Sud africain, donc un but non lucratif. Et donc l'objectif, c'est de conduire la première mission africaine sur la Lune. Comme quoi, l'homme noir doit aussi être avoir posé les pieds sur la Lune. C'est important pour toute cette indépendance et cette notion de puissance. Donc afin de financer la phase initiale du projet, elle a lancé une campagne sur Internet pour récupérer 150 000 dollars. Et cette initiative privée rappelle que les États africains se sont déjà emparés de la question spatiale. En effet, au Nigeria, déjà en 2003, le Nigeria avait lancé un premier satellite. Et puis, nous avions aussi l'Organisation régionale africaine de communication qui a été créée dans les années 90. Deux satellites africains avaient été lancés en 2007 et 2010, par la fusée Ariane 5, et puis à partir de la base de Kourou. Donc il y avait encore une indépendance par rapport aux Français pour l'envoi de ces deux satellites. Donc en fait, ce qu'ils cherchent, c'est aussi une rampe de lancement totalement africaine pour être indépendante des Européens. Donc cet univers, en fait, ces nouveaux acteurs que l'on voit sur cette course à l'espace, cette dimension médiatique, symbolique qui entoure l'activité spatiale, eh bien, se montre une entrée dans la modernité. Cette modernité, eh bien, c'est Portishead qui nous la chante avec effroi déjà en 1994 dans la chanson « Wandering Star ». La dimension médiatique et symbolique qui entoure l'activité spatiale n'a plus la signification qu'elle avait au début de l'ère spatiale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut bien comprendre que la présence dans l'espace est perçue comme un vrai témoignage de modernité. Chaque pays qui lance ou qui fait lancer son premier satellite, comme le Nigeria en 2003, communique sur l'événement. Ou bien la Corée en février 2016. Elle communique sur l'événement, elle l'utilise comme une vraie caisse de résonance, à la fois comme usage interne et comme usage externe. Encore l'exemple de la Corée du Nord est significatif. Donc c'est véritablement une célébration de la fierté nationale, c'est un véritable souci de reconnaissance qui demeure des ressorts permanents dans les politiques spatiales. Donc pour de nombreux pays en développement, il est donc important d'afficher son intérêt, ses ambitions à travers la course à l'espace. Et l'annonce, par exemple, de la création d'une agence spatiale nationale, eh bien, relève de cette logique. D'où ça vient tout ceci? Eh bien, c'est dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux chocs. Le choc du Spoutnik, le vol du premier homme et la marche sur la Lune représentent les points d'orgue de la conquête spatiale. Eh bien, retournons un petit peu en arrière, arrêtons-nous en 1969 avec David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7. Off.
Time to leave the capsule in the dead.
1969, ou comment les États-Unis assument leur place de puissance mondiale, ou comment on peut comprendre à partir de l'année 69 les enjeux de la guerre froide. En effet, 25 mai 61, 6 semaines après le vol russe de Yuri Gagarin, John Fitzgerald Kennedy modifie radicalement la donne. Je cite « Je crois que notre nation se doit de réussir, avant la fin de la décennie, à poser un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur la Terre. » Les États-Unis vont mettre en point un projet remarquable par sa conception d'ensemble, sa simplicité et son niveau d'organisation. Le vaisseau Apollo comprend 3 éléments. Une cabine de commande, qui embarque 3 astronautes, une cabine de service, qui contient notamment le système de propulsion, et une cabine lunaire, à 2 étages, qui atterrira avec 2 cosmonautes. La fusée utilisée est la Saturn V, dont le premier essai est réussi en novembre 67. Les hommes et les matériels sont rodés entre 64 et 66. On compte 10 missions du vaisseau Gemini. À l'intérieur, ordinateur de bord, changement d'orbite, rendez-vous orbitaux, sortie dans l'espace, préparation de l'alunissage. Toutes ces opérations sont effectuées dans un délai très rapide pour préparer le grand atterrissage sur la Lune en 69. Bon, d'ailleurs, le 27 janvier 67, c'est la catastrophe. 3 astronautes sont brûlés vifs dans la capsule Apollo qui est placée au sommet de la fusée Saturne à Cap Canaveral. Le calendrier de la course à la Lune est un peu stoppé pendant 18 mois sans que les Soviétiques en tirent profit à ce moment-là. En mai 69, la répétition générale a lieu autour de la Lune. Le 16 juillet 69, c'est le départ historique d'Apollo 11 et le succès. Mais alors, que font les Soviétiques? Pourquoi n'apparaissent-ils pas au moins comme le brillant second, la deuxième puissance spatiale durant la guerre froide? En effet, ils auraient pu au moins l'unir avec 1 ou 2 ans de retard après Apollo. Bon, le problème est au-delà des seules questions budgétaires, structurelles et organisationnelles. En fait, les ingénieurs qui sont responsables des fusées dans l'Empire soviétique sont de véritables empereurs dans leurs entreprises. En fait, ils regroupent des usines sous leur direction et ils nomment et ils congédient leurs adjoints. Ils évincent leurs rivaux. Ils contrôlent tout. Même si c'est le Politburo qui a le dernier mot, il n'a guère temps de juger. Aux États-Unis, au contraire, tout se fait sous l'égide de la NASA. C'est une entreprise, c'est un organisme d'État. C'est quand même un paradoxe. On est aux États-Unis dans le pays de la libre entreprise et c'est un organisme unique d'État qui va rendement mener l'affaire. Alors qu'en dans l'Union soviétique, qui est le pays de la bureaucratie centralisée, c'est l'émiettement et la prise d'initiative qui est non contrôlée. Eh bien, c'est ça la cause de cet échec pour les Soviétiques. Alors évidemment, les Soviétiques inscriront à leur actif quelques succès. Le premier vol d'une femme en juin 63, la première sortie extravéhiculaire en 65. Mais la métaphore sportive s'impose. Hein. L'Union soviétique a tenu jusqu'à Gagarine. Puis, par la suite, elle a rivalisé avec un adversaire bien plus supérieur et elle s'est épuisée. En effet, elle a un programme qui s'appelle Zonde en 65 qui tourne au désastre. Elle aurait pu se consoler avec le projet Luna 15 qui lui aurait ramené de la poussière lunaire. Mais 5 jours après le triomphe des Américains, elle envoie cette sonde sur la Lune et elle s'écrase sur la Lune. En fait, voilà. En réalité, la fameuse course à l'espace, en tout cas du moins comme on se la représente aujourd'hui, est une véritable construction. Cette notion est une notion géopolitique. Et c'est là qu'il faut comprendre que l'Union soviétique avait largement exploité ses compétences spatiales comme démonstration de la preuve de sa supériorité, ses choix idéologiques durant la guerre froide. En fait, il faut bien comprendre qu'il y avait l'assimilation dans l'Union soviétique entre le cosmonaute et l'homme nouveau communiste qu'elle voulait créer et en opposition aux États-Unis. Donc il n'était pas question pour les Russes, au lendemain de la victoire des Américains avec la Lune, en 69, de relever ce défi à n'importe quel prix. Donc Nikita Khrouchtchev va réagir de cette façon. Eh bien, si les Américains veulent la Lune, qu'ils la prennent. Même les Soviétiques ne parviennent pas à tourner les premiers autour de la Lune. Eh bien, David Bowie, en 69, dans la chanson Space Oddity, qui est sa vraie première chanson qui va ouvrir un chapitre sur l'espace, eh bien, constitue son premier succès. Elle raconte l'histoire de ce jeune astronaute, le Major Tom, qui, sous la forme d'un dialogue entre le contrôle du sol et l'astronaute, eh bien, on entend toutes les étapes de la conquête de la Lune. Donc c'est le décollage qui se déroule à la perfection, c'est la sortie dans l'espace du Major Tom, et puis c'est le problème technique. Et puis c'est le problème technique, le Major Tom erre dans l'espace, et puis à bord de son vaisseau, il va vers une fin certaine. Eh bien, cette chanson de David Bowie, en 69, elle est non pas une réponse à la conquête par Neil Armstrong de la Lune, mais une réponse au film de Stanley Kubrick en 2001. En 1976, les États-Unis poursuivent leur conquête de l'espace en envoyant une sonde sur Mars dès 1976. Petite réponse de David Bowie.
Les routes musicales sur Couleur FM.
Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong.
Thank you.
David Bowie, décédé le 10 janvier. Pour lui rendre hommage, eh bien, on a imaginé, dans le ciel nocturne et dans le voisinage de Mars, une constellation en forme d'étoile, en forme d'éclair, que l'on retrouvait sur l'album Aladdin Sen, sorti en 1973. En effet, c'est une idée des astronautes belges de l'observatoire public, Mira Studio Bruxelles, que rapporte le magazine américain Pitchfork. Eh bien, ils ont réussi à assembler 7 étoiles en forme d'éclair dans le ciel qui forment une constellation. Alors, si vous voulez aussi ajouter sur ces constellations les meilleures chansons que vous préférez de Bowie, eh bien, vous allez sur le site, ça s'appelle le site Stardust for Bowie, et puis en parallèle avec le site Google Skies, vous pouvez y ajouter vos chansons. Donc lorsque David Bowie écrit cette chanson Life on Mars en 1971, eh bien, il faut comprendre que ça marque, les années 70 marquent la vraie victoire technologique des Américains sur les Russes. Donc en fait, tous les premiers échecs des années 50-60 américains suite au lancement des premiers satellites soviétiques, en effet, hein, il faut comprendre que 40 ans après la révolution d'octobre en 1918, donc on est en 58, c'est le lancement de Sputnik par les Russes, c'est 500 kilos. Donc là, il faut bien, la propagande insiste sur une compétition globale entre les États-Unis et la Russie. Alors certes, il y a un retard économique vis-à-vis des pays capitalistes tels que les États-Unis, mais Khrouchtchev va utiliser ce qu'on appelle la théorie du rattrapage avec le lancement de Sputnik. Il va faire, c'est pas grave, on est en retard économiquement, mais on va plus vite qu'eux sur la conquête de l'espace. Et puis, les États-Unis, ça va les forcer justement à accélérer cette course à l'espace. Et ils enverront en 58 le premier satellite états-unien Explorer 1 qui pèsera 14 kilos. Et puis, Eisenhower crée, nous l'avons dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on crée des agences spatiales pour plus de propagande et pour montrer l'intérêt, tous ses intérêts et son ambition face à l'espace, eh bien Eisenhower créera la NASA le 1er octobre 58. Eh bien, qui chante ce succès d'Explorer 1 dans l'espace ? Eh bien, ce sont les Beatles en 1967, avec la chanson « Across the Universe ».
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million. They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Suns, it calls me on and on across the evening.
4 février 2008, la NASA a diffusé le titre dans l'espace des Beatles Across the Universe pour fêter notamment le cinquantenaire du premier satellite américain Explorer 1 et puis pour transmettre un message, une musique à l'espace. Alors, que faut-il de l'attendre de l'espace aujourd'hui ? Faisons une petite parenthèse, dirons-nous pas géopolitique, mais plutôt cosmique, voire fictionnelle, de science-fiction. Alors, cette question, beaucoup d'astronomes se sont posés de qu'est-ce qu'il faut attendre de l'espace aujourd'hui ? Eh bien, ils ont sondé activement la présence, les astronomes, d'aliens dans l'espace, et ça depuis 1960. Alors, revenons un petit peu en arrière. En 1960, près de Green Bank, en Virginie occidentale, il y a un jeune radio-astronome du nom de Frank Drake qui a pointé l'antenne d'un radiotélescope de 25 mètres de diamètre vers deux étoiles proches, similaires à notre Soleil. Donc il a sélectionné une bande de fréquence qui, à son avis, avait des chances d'être utilisée par des aliens pour leur communication interstellaire. Bon, ben, malheureusement, les étoiles sont restées muettes, mais il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'a démarré la première grande entreprise de recherche de civilisations extraterrestres dans les années 60. Et c'est ce que l'on appellera aux États-Unis le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc c'est-à-dire une recherche d'intelligence extraterrestre. Donc c'est une initiative d'origine d'avant tout américaine et puis qui a très vite impliqué une coopération internationale. Bon, alors, ces fouilles astronomiques qui ont enflammé l'imagination de nombreux terriens, eh bien, n'ont toujours pas permis de détecter le moindre salut en provenance de l'espace. La question est reposée, hein, depuis, vous savez, 1995, avec le télescope Kepler, qui est un télescope spatial de la NASA, qui a découvert les exoplanètes dans d'autres systèmes solaires. Alors évidemment, la question de savoir s'il existe une vie peut évidemment se poser. Eh bien, on termine avec ces Radiohead qui tentent d'expérimenter un voyage avec les aliens qui sont pour Radiohead, des êtres sympathiques.
Beautiful shit, showing the world as I love to see.
Pour Radiohead, les aliens semblent donc être des êtres sympathiques. Or, toujours aucune nouvelle. Alors, au lieu de les chercher maintenant, les chercheurs du SETI envoient des messages dans l'univers. Et en effet, le télescope Kepler, depuis 1995, qui a découvert les exoplanètes, eh bien, nous permet de penser que les messages pourraient être reçus par d'autres existences, par d'autres créatures. Bon. Alors, le souci, c'est que nous ne savons pas si ces créatures communiquent. Alors, fermons ce chapitre des aliens avec l'argumentation de Enrico Fermi, qui est prix Nobel de physique et compagnon d'Einstein, qui s'interrogeait. Alors, si les extraterrestres existent, alors pourquoi ne sont-ils pas déjà ici ? Donc, son paradoxe postule que si la vie intelligente existait dans l'univers, de nombreuses civilisations devraient avoir des millions d'années d'avance sur nous, et donc devraient posséder la technologie permettant de venir nous voir. Ce n'est pas le cas. Donc, pour Fermi, il n'y a donc pas d'extraterrestres. Le chapitre est donc clos. Donc, en attendant que la conquête de l'espace ne soit plus la science-fiction, ou que les aliens débarquent sur notre planète, je vous renvoie à la contemplation des étoiles et je vous souhaite une bonne fin d'émission avec M et la bonne étoile. Au revoir.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille.
Maintenant,
Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Les routes musicales sur Couleur FM.